Spinoza, Éthique, livre 1, de Dieu, proposition 30, à fin du livre. Proposition 30. Un entendement actuellement fini ou actuellement infini doit comprendre les attributs de Dieu et les affections de Dieu et nulle autre chose. Démonstration. Une idée vraie doit s'accorder avec l'objet dont elle est l'idée, axiome 6, c'est-à-dire comme il est connu de soi, ce qui est contenu objectivement dans l'entendement doit être nécessairement donné dans la nature. Or, il n'est donné dans la nature, corollaire 1 de la proposition 14, qu'une substance unique, à savoir Dieu. Et il n'est pas d'autres affections, proposition 15, que celles qui sont en Dieu, et qui, même proposition, ne peuvent, sans Dieu, ni être conçues. Donc, un entendement, actuellement fini ou actuellement infini, doit comprendre les attributs de Dieu et les affections de Dieu et rien autre chose. C'est QFD. Proposition 31. L'entendement en acte, qu'il soit fini ou infini, comme aussi la volonté, le désir, l'amour, etc., doivent être rapportés à la nature naturée et non à la naturante. Démonstration. Par entendement, en effet, nous entendons, comme il est connu de soi, non la pensée absolue, mais seulement un certain mode du penser, lequel diffère des autres, tels que le désir, l'amour, etc. et doit en conséquence, définition 5, être conçu par le moyen de la pensée absolue. Il doit être conçu, dis-je, proposition 15 et définition 6, par le moyen d'un attribut du Dieu, exprimant l'essence éternelle et infinie de la pensée, et cela de telle façon qu'il ne puisse, sans cet attribut, ni être conçu, et pour cette raison, scolie de la proposition 29, il doit être rapporté à la nature naturée et non à la naturante, de même que les autres modes du penser. CQFD. Scolie. La raison pour laquelle je parle ici d'un entendement en acte n'est pas que j'accorde l'existence d'aucun entendement en puissance. Mais, désirant éviter toute confusion, je n'ai voulu parler que de la chose la plus clairement perçue par nous, à savoir l'action même de connaître, qui est ce que nous percevons le plus clairement, car nous ne pouvons rien connaître qui ne conduise à une connaissance plus grande de l'action de connaître. Proposition 32. La volonté ne peut être appelée cause libre, mais seulement cause nécessaire. Démonstration. La volonté, de même que l'entendement, est un certain mode du penser. Et ainsi, proposition 28, chaque volition ne peut exister et être déterminée à produire quelque effet, sinon par une autre cause déterminée, cette cause l'étant à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. Que si une volonté est supposée infinie, elle doit aussi être déterminée à exister et à produire quelque effet par Dieu, non en tant qu'il est une substance absolument infinie, mais en tant qu'il a un attribut qui exprime l'essence absolue et éternelle de la pensée. Proposition 23. De quelque manière, donc, qu'on la conçoive, une volonté, finie ou infinie, requiert une cause par où elle soit déterminée à exister et à produire quelque effet, et ainsi, définition 7, ne peut être dite cause libre, mais seulement nécessaire ou contrainte. CQFD. Corollaire 1. Il suit de là. Premièrement, que Dieu ne produit pas ses effets par la liberté de la volonté. Corollaire 2. Il suit, deuxièmement, que la volonté et l'entendement soutiennent, avec la nature de Dieu, la même relation que le mouvement et le repos. Et absolument, toutes les choses de la nature qui, proposition 29, doivent être déterminées à exister et à agir d'une certaine manière. Car la volonté, comme toutes autres choses, a besoin d'une cause par où elle soit déterminée à exister et à produire quelque effet d'une certaine manière. Et bien que, d'une volonté donnée ou d'un entendement donné, suivent une infinité de choses, on ne peut dire pour cela que Dieu agit par la liberté de la volonté, pas plus qu'on ne peut dire parce que du mouvement et du repos suivent certaines choses, et que ses effets aussi sont innombrables, que Dieu agit par la liberté du mouvement et du repos. La volonté, donc, n'appartient pas à la nature de Dieu plus que les autres choses de la nature, mais soutient avec lui la même relation que le mouvement et le repos et toutes autres choses que nous avons montrées qui suivent de la nécessité de la nature divine et sont déterminées par elle à exister et à produire quelque effet d'une certaine manière. Proposition 33. Les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune manière autre et dans aucun ordre autre que de la manière et dans l'ordre où elles ont été produites. Démonstration. Toutes choses ont suivi nécessairement de la nature du Dieu supposé donné et ont été déterminées par la nécessité de la nature de Dieu à exister et à produire quelque effet d'une certaine manière. Proposition 29. Si donc des choses d'une nature différente avaient pu être, ou être déterminées à produire quelque effet, d'une autre manière, de façon que l'ordre de la nature fût autre, Dieu pourrait être aussi d'une nature autre, et par suite, proposition 11, cette autre nature aussi devrait exister. Et il pourrait y avoir en conséquence deux ou plusieurs dieux, ce qui, corollaire de la proposition 14, est absurde. Pour cette raison, les choses n'ont pu être d'une manière autre et dans un ordre autre, etc. CQFD. Scoli 1. Ayant montré par ce qui précède, plus clairement que la lumière du jour, qu'il n'existe absolument rien dans les choses à cause de quoi elles puissent être dites contingentes, je veux maintenant expliquer en quelques mots ce que nous devons entendre par contingent, et d'abord ce que nous devons entendre par nécessaire et impossible. Une chose est dite nécessaire, soit par rapport à son essence, soit par rapport à sa cause, car l'existence d'une chose suit nécessairement ou bien de son essence et de sa définition, ou bien d'une cause efficiente donnée. C'est pour les mêmes causes qu'une chose est dite impossible, ou bien, en effet, c'est parce que son essence ou définition enveloppe une contradiction, ou bien parce que nulle autre cause extérieure n'est donnée qui soit déterminée de façon à produire cette chose. Pour nulle autre cause maintenant, une chose n'est dite contingente, sinon une égard à un manque de connaissance en nous, car une chose dont nous ignorons que l'essence enveloppe contradiction, ou de laquelle nous savons bien qu'elle n'enveloppe aucune contradiction, sans pouvoir rien affirmer avec certitude de son existence, parce que nous ignorons l'ordre des causes, une telle chose, dis-je, ne peut jamais nous apparaître ni comme nécessaire, ni comme impossible, et par suite, nous l'appelons contingente ou possible. Scoli 2. il suit nécessairement de ce qui précède que les choses ont été produites par Dieu avec une souveraine perfection, puisqu'elles ont suivi nécessairement d'une nature donnée qui est parfaite au plus haut point. Et nulle imperfection n'est par là imputée à Dieu, car c'est sa perfection même qui nous a contraints à l'affirmer. Bien mieux, c'est de l'affirmation contraire qu'il suivrait, je viens de le montrer, que Dieu n'est pas souverainement parfait. Car si les choses avaient été produites d'une autre manière, il faudrait attribuer à Dieu une autre nature, différente de celle que la considération de l'être parfait au plus haut point nous oblige à lui attribuer. Mais je ne doute pas que beaucoup ne repoussent d'abord cette manière de voir comme une chose absurde et ne consentent même pas à l'examiner. Et cela pour cette seule raison qu'ils ont accoutumé d'attribuer à Dieu une liberté de toute autre sorte que celle que nous avons définie, définition 7, à savoir une volonté absolue. Et je ne doute pas non plus que s'ils veulent méditer sur ce sujet et examiner loyalement la suite de mes démonstrations, ils ne rejettent entièrement, non seulement comme une chose futile, mais comme un grand empêchement à la science, cette sorte de liberté qu'ils attribuent à Dieu. Il n'est pas besoin ici de répéter ce que j'ai dit dans le scoli de la proposition 17. En leur faveur, cependant, je montrerai encore que, même en accordant que la volonté appartient à l'essence de Dieu, il ne suit pas moins de sa perfection que les choses n'ont pu être créées par Dieu d'aucune autre manière et dans aucun ordre autre. Il sera facile de le montrer si nous avons égard, en premier lieu, à ce qu'eux-mêmes concèdent, à savoir qu'il dépend du seul décret et de la seule volonté de Dieu que chaque chose qui est soit ce qu'elle est. S'il en était autrement, en effet, Dieu ne serait pas cause de toute chose. En second lieu, ils accordent aussi que tous les décrets de Dieu ont été arrêtés par Dieu même de toute éternité. S'il en était autrement, de l'imperfection et de l'inconstance seraient imputés à Dieu. Dans l'éternité, il n'y a d'ailleurs ni quand, ni avant, ni après. Il suit donc de là, c'est-à-dire de la seule perfection de Dieu, que Dieu ne peut ni n'a pu jamais décréter autre chose. En d'autres termes, que Dieu n'existe pas antérieurement à ses décrets et ne peut exister sans eux. Mais, diront-ils, quand même on supposerait que Dieu eût fait une autre nature des choses, ou qu'il eût, de toute éternité, décréter autre chose sur la nature et sur son ordre. Il ne s'ensuivrait en Dieu aucune imperfection. Je réponds qu'en disant cela, ils accordent que Dieu peut changer ses décrets. Car si Dieu avait décrété sur la nature et sur son ordre autre chose que ce qu'il a décrété, c'est-à-dire s'il avait, au sujet de la nature, voulu et conçu autre chose, il aurait eu nécessairement un entendement autre que n'est actuellement le sien et une volonté autre que n'est actuellement la sienne. Et s'il est permis d'attribuer à Dieu un autre entendement et une autre volonté, sans pour cela rien changer à son essence et à sa perfection, pour quelle cause ne pourrait-il actuellement changer ses décrets au sujet des choses créées, tout en restant également parfait? Car, de quelque façon qu'on les conçoive, son entendement et sa volonté concernant les choses créées soutiennent toujours le même rapport avec son essence et sa perfection. D'autre part, tous les philosophes, à ma connaissance, accordent qu'il n'existe pas en Dieu d'entendement en puissance, mais seulement un entendement en acte, Puis donc que son entendement et sa volonté ne se distinguent pas de son essence, ainsi que tous aussi l'accordent. Il suit de là encore que si Dieu avait eu un autre entendement en acte et une autre volonté, son essence aussi eût été nécessairement autre. Et par suite, comme je l'ai d'abord conclu, si les choses eussent été produites par Dieu autrement qu'elles ne sont actuellement, l'entendement de Dieu et sa volonté, c'est-à-dire comme on l'accorde son essence, devrait être autre, ce qui est absurde. Puis donc, que les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune autre manière et dans aucun autre ordre, et que la vérité de cette proposition est une conséquence de la souveraine perfection de Dieu, nous ne nous laisserons certes jamais persuadés par aucune raison que Dieu n'a pas voulu créer toutes les choses dont son entendement a l'idée avec autant de perfection qu'il s'en trouve dans les idées. On objectera qu'il n'y a dans les choses ni perfection ni imperfection, ce pourquoi elles sont dites parfaites ou imparfaites et bonnes ou mauvaises, dépendant uniquement de la volonté de Dieu. D'où suit que, si Dieu l'eût voulu, il eût pu faire que ce qui est actuellement perfection fût d'une extrême imperfection, et vice-versa. Mais qu'est-ce donc autre chose qu'affirmer ouvertement que Dieu, qui a nécessairement l'idée de ce qu'il veut, peut, par sa volonté, faire qu'il ait des choses une idée autre que celle qu'il en a. Ce qui, je viens de le démontrer, est une grande absurdité. Je puis donc retourner contre eux leur argument, et cela de la façon suivante. Toutes choses dépendent de la puissance de Dieu. Pour que les choses puissent être autrement qu'elles ne sont, il faudrait donc nécessairement aussi que la volonté de Dieu fût autre. Or, la volonté de Dieu ne peut pas être autre, comme nous venons de montrer qu'il suit de la perfection de Dieu avec la dernière évidence. Donc, les choses aussi ne peuvent pas être autrement. Je reconnais que cette opinion, qui soumet tout à une volonté divine indifférente et admet que tout dépend de son bon plaisir, s'éloigne moins de la vérité que cette autre consistant à admettre que Dieu agit en tout en ayant égard au bien. Car ceux qui la soutiennent semblent poser en dehors de Dieu quelque chose qui ne dépend pas de Dieu et à quoi Dieu a égard comme à un modèle dans ses opérations, ou à quoi ils tendent comme vers un but déterminé. Cela revient à soumettre Dieu au destin, et rien de plus absurde ne peut être admis au sujet de Dieu, que nous avons montré qui est la cause première et l'unique cause libre, tant de l'essence de toute chose que de leur existence. Il n'y a donc pas de raison pour perdre du temps à réfuter cette absurdité. Proposition 34. La puissance de Dieu et son essence même. Démonstration. Il suit de la seule nécessité de l'essence de Dieu que Dieu est cause de soi. Proposition 11. Et proposition 16 avec son corollaire de toutes choses. Donc, la puissance de Dieu par laquelle lui-même et toutes choses sont et agissent est son essence même. CQFD. Proposition 35. Tout ce que nous concevons qui est au pouvoir de Dieu est nécessairement. Démonstration. Tout ce qui est au pouvoir de Dieu doit, proposition précédente, être compris en telle sorte en son essence qu'il en suive nécessairement et par suite et nécessairement. CQFD. Proposition 36. Rien n'existe de la nature de quoi ne suive quelque effet. Démonstration. Tout ce qui existe exprime en un mode certain et déterminé, la nature ou l'essence de Dieu, corollaire de la proposition 25. Autrement dit, proposition 34, tout ce qui existe exprime en un mode certain et déterminé la puissance de Dieu qui est cause de toute chose, et par suite, proposition 16, quelque effet en doit suivre. CQFD. Appendice. J'ai expliqué dans ce qui précède la nature de Dieu et ses propriétés. Savoir qu'il existe nécessairement, qu'il est unique, qu'il est et agit par la seule nécessité de sa nature, qu'il est la cause libre de toute chose et en quelle manière il est, que tout est en Dieu et dépend de lui, de telle sorte que rien ne peut ni être conçu sans lui. Enfin, que tout a été prédéterminé par Dieu, non certes par la liberté de la volonté, autrement dit par un bon plaisir absolu, mais par la nature absolue de Dieu, c'est-à-dire sa puissance infinie. J'ai eu soin, en outre, partout où j'en ai eu l'occasion, d'écarter les préjugés qui pouvaient empêcher que mes démonstrations ne fussent perçues. Comme, toutefois, il en reste encore beaucoup qui pouvaient et peuvent aussi, et même au plus haut point, empêcher les hommes de saisir l'enchaînement des choses de la façon que je l'ai exposée, j'ai cru qu'il valait la peine de soumettre ici ces préjugés à l'examen de la raison. Tous ceux que j'entreprends de signaler ici dépendent d'ailleurs d'un seul, consistant en ce que les hommes supposent communément que toutes les choses de la nature agissent comme eux-mêmes en vue d'une fin, et vont jusqu'à tenir pour certain que Dieu lui-même dirige tout vers une certaine fin. Ils disent en effet que Dieu a tout fait en vue de l'homme et qu'il a fait l'homme pour que l'homme lui rendît un culte. C'est donc ce préjugé seul que je considérerai d'abord, cherchant, primo, pour quelle cause la plupart s'y tiennent et pourquoi tout s'incline naturellement à l'embrasser. En second lieu, j'en montrerai la fausseté, et pour finir, je ferai voir comment en sont issus les préjugés relatifs au bien et au mal, au mérite et au péché, à la louange et au blâme, à l'ordre et à la confusion, à la beauté et à la laideur, et à d'autres objets de même sorte. Il n'appartient pas toutefois à mon objet présent de déduire cela de la nature de l'âme humaine. Il suffira pour le moment de poser en principe ce que tous doivent reconnaître, que tous les hommes naissent sans aucune connaissance des causes des choses et que tous ont un appétit de rechercher ce qui leur est utile et qu'ils en ont conscience. De là suit, premièrement, que les hommes se figurent être libres parce qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit, et ne pensent pas, même en rêve, aux causes par lesquelles ils sont disposés à appéter et à vouloir, n'en ayant aucune connaissance. Il suit, deuxièmement, que les hommes agissent toujours en vue d'une fin, savoir l'utile qu'ils appètent. D'où résulte qu'ils s'efforcent toujours uniquement à connaître les causes finales des choses accomplies et se tiennent en repos quand ils en sont informés, n'ayant plus aucune raison d'inquiétude. S'ils ne peuvent les apprendre d'un autre, leur seule ressource est de se rabattre sur eux-mêmes et de réfléchir aux fins par lesquelles ils ont coutume d'être déterminés à des actions semblables. Et ainsi, jugent-ils nécessairement de la complexion d'autrui par la leur. Comme en outre, ils trouvent en eux-mêmes et hors d'eux un grand nombre de moyens contribuant grandement à l'atteinte de l'utile. Ainsi, par exemple, des yeux pour voir, des dents pour mâcher, des herbes et des animaux pour l'alimentation, le soleil pour s'éclairer, la mer pour nourrir les poissons. Ils en viennent à considérer toutes les choses existant dans la nature comme des moyens à leur usage, sachant d'ailleurs qu'ils ont trouvé ces moyens, mais ne les ont pas procurés. Ils ont tiré de là un motif de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a procurés pour qu'ils en fissent usage. Ils n'ont pu, en effet, après avoir considéré les choses comme des moyens, croire qu'elles se sont faites elles-mêmes. Mais, tirant leur conclusion des moyens qu'ils ont accoutumés de se procurer, ils ont dû se persuader qu'il existait un ou plusieurs directeurs de la nature, doués de la liberté humaine, ayant pourvu à tous leurs besoins et tout fait pour leur usage. N'ayant jamais reçu, au sujet de la complexion de ces êtres, aucune information, ils ont dû aussi en juger d'après la leur propre. Et ainsi ont-ils admis que les dieux dirigent toutes choses pour l'usage des hommes, afin de se les attacher et d'être tenus par eux dans le plus grand honneur. Par où il advint que tous, se référant à leur propre complexion, inventèrent divers moyens de rendre un culte à Dieu, afin d'être aimés par lui par-dessus les autres, et d'obtenir qu'il dirigeât la nature entière au profit de leur désir aveugle et de leur insatiable avidité. De la sorte, ce préjugé se tourna en superstition et poussa de profondes racines dans les âmes, ce qui fut pour tous un motif de s'appliquer de tout leur effort à la connaissance et à l'explication des causes finales de toutes choses. Mais, tandis qu'ils cherchaient à montrer que la nature ne fait rien en vain, c'est-à-dire rien qui ne soit pour l'usage des hommes, ils semblent n'avoir montré rien d'autre, sinon que la nature et les dieux sont atteints du même délire que les hommes. Considérez, je vous le demande, où les choses en sont enfin venues. Parmi tant de choses utiles offertes par la nature, ils n'ont pu manquer de trouver bon nombre de choses nuisibles, telles les tempêtes, les tremblements de terre, les maladies, etc. Et ils ont admis que de telles rencontres avaient pour origine la colère de Dieu, excitée par les offenses des hommes envers lui ou par les péchés commis dans son culte. Et, en dépit des protestations de l'expérience quotidienne, montrant par des exemples sans nombre que les rencontres utiles et les nuisibles échoient sans distinction aux pieux et aux impies, ils n'ont pas pour cela renoncé à ce préjugé invétéré. Ils ont trouvé plus expédient de mettre ce fait au nombre des choses inconnues dont ils ignoraient l'usage, et de demeurer dans leur état actuel et natif d'ignorance, que de renverser tout cet échafaudage et d'en inventer un autre. Ils ont donc admis, comme certains, que les jugements de Dieu passent de bien loin la compréhension des hommes. Cette seule cause, certes, eût pu faire que le genre humain fût à jamais ignorant de la vérité, si la mathématique, occupée non des fins, mais seulement des essences et des propriétés des figures, n'avait fait luire devant les hommes une autre norme de vérité. Outre la mathématique, on peut assigner d'autres causes encore qu'il est superflu d'énumérer ici, par lesquelles il a pu arriver que les hommes aperçussent ces préjugés communs et fussent conduits à la connaissance vraie des choses. J'ai assez expliqué par là ce que j'ai promis en premier lieu. Pour montrer maintenant que la nature n'a aucune fin à elle prescrite et que toutes les causes finales ne sont rien que des fictions des hommes, Il ne sera pas besoin de longs discours. Je crois en effet avoir déjà suffisamment établi, tant en montrant de quel principe et de quelle cause ce préjugé tire son origine, que par la proposition 16 et les corollaires de la proposition 12, et en outre par tout ce que j'ai dit, qui prouve que tout dans la nature se produit avec une nécessité éternelle et une perfection suprême. J'ajouterai cependant ceci, que cette doctrine finaliste renverse totalement la nature, car elle considère comme effet ce qui, en réalité, est cause, et vice-versa. En outre, elle met après ce qui, de nature, est avant. Enfin, elle rend très imparfait ce qui est le plus élevé et le plus parfait. Pour laisser de côté les deux premiers points, qui sont évidents par eux-mêmes. Cet effet, comme il est établi par les propositions 21, 22 et 23, est le plus parfait qui est produit par Dieu immédiatement. Et plus une chose a besoin pour être produite de causes intermédiaires, plus elle est imparfaite. Mais, si les choses immédiatement produites par Dieu avaient été faites pour que Dieu pût atteindre sa fin, alors, nécessairement, les dernières, à cause desquelles les premières eussent été faites, seraient de toutes les plus excellentes. En outre, cette doctrine détruit la perfection de Dieu, car si Dieu agit pour une fin, il appête nécessairement quelque chose de quoi il est privé. Et bien que théologiens et métaphysiciens distinguent entre une fin de besoin et une fin d'assimilation, ils conviennent cependant que Dieu a tout fait pour lui-même et non pour les choses à créer, car ils ne peuvent en dehors de Dieu rien assigner qui fût avant la création et à cause de quoi Dieu eût agi. Ils sont donc contraints aussi de reconnaître que Dieu était privé de tout ce pourquoi il a voulu procurer des moyens et le désirait, comme il est clair de soi. Et il ne faut pas oublier ici que les sectateurs de cette doctrine, qui ont voulu faire montre de leur talent en assignant les fins des choses, ont, pour soutenir leur doctrine, introduit une nouvelle façon d'argumenter. La réduction non à l'impossible, mais à l'ignorance. Ce qui montre qu'il n'y avait pour eux aucun moyen d'argumenter. Si par exemple, une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué, ils démontreront de la manière suivante que la pierre est tombée pour tuer cet homme. Si elle n'est pas tombée à cette fin par la volonté de Dieu, comment, tant de circonstances, et en effet, il y en a souvent un grand concours, ont-elles pu se trouver, par chance, réunies? Peut-être, direz-vous, cela est arrivé parce que le vent soufflait et que l'homme passait par là. Mais, insisteront-ils, pourquoi le vent soufflait-il à ce moment? Pourquoi l'homme passait-il par là à ce même instant? Si vous répondez alors, le vent s'est levé parce que la mer, le jour avant, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter. L'homme avait été invité par un ami. Ils insisteront de nouveau, car ils n'en finissent pas de poser des questions. Pourquoi la mer était-elle agitée? Pourquoi l'homme a-t-il été invité pour tel moment? Et ils continueront ainsi de vous interroger sans relâche sur les causes des événements, jusqu'à ce que vous vous soyez réfugié dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. De même, quand ils voient la structure du corps humain, ils sont frappés d'un étonnement imbécile et de ce qu'ils ignorent les causes d'un si bel arrangement, concluent qu'il n'est point formé mécaniquement, mais par un art divin ou surnaturel, et en telle façon qu'aucune partie ne nuise à l'autre. Et ainsi arrive-t-il que quiconque cherche les vraies causes des prodiges et s'applique à connaître en savant les choses de la nature, au lieu de s'en émerveiller, comme un sot, est souvent tenu pour hérétique et impie, et proclamé tel par ceux que le vulgaire adore comme des interprètes de la nature et des dieux. Ils savent bien que détruire l'ignorance, c'est détruire l'étonnement imbécile, c'est-à-dire leur unique moyen de raisonner et de sauvegarder leur autorité. Mais en voilà assez sur ce chapitre, je passe au troisième point que j'ai résolu de traiter. Après s'être persuadé que tout ce qui arrive est fait à cause d'eux, les hommes ont dû juger qu'en toute chose, le principal est ce qui a pour eux le plus d'utilité et tenir pour les plus excellentes celles qui les affectent le plus agréablement. Par là, ils n'ont pu manquer de former ces notions par lesquelles ils prétendent expliquer les natures des choses, ainsi le bien, le mal, l'ordre, la confusion, le chaud, le froid, la beauté et la laideur. Et de la liberté qu'ils s'attribuent sont provenues ces autres notions, la louange et le blâme, le péché et le mérite. J'expliquerai plus tard ces dernières quand j'aurai traité de la nature humaine, et je rendrai compte ici brièvement des premières. Les hommes ont donc appelé bien tout ce qui contribue à la santé et au culte de Dieu, mal ce qui leur est contraire. Et, comme ceux qui ne connaissent pas la nature des choses n'affirment rien qui s'applique à elles, mais les imaginent seulement et prennent l'imagination pour l'entendement, ils croient donc fermement qu'il y a en elles de l'ordre, dans l'ignorance où ils sont, de la nature, tant des choses que d'eux-mêmes. Quand elles sont disposées, en effet, de façon que nous, les représentants par les sens, nous puissions facilement les imaginer, et par suite nous les rappeler facilement, nous disons qu'elles sont bien ordonnées. Dans le cas contraire, qu'elles sont mal ordonnées ou confuses. Et, comme nous trouvons plus d'agrément qu'aux autres aux choses que nous pouvons imaginer avec facilité, les hommes préfèrent l'ordre à la confusion, comme si, sauf par rapport à notre imagination, l'ordre était quelque chose dans la nature. Ils disent encore que Dieu a créé toute chose avec ordre, et de la sorte, sans le savoir, attribue à Dieu de l'imagination, à moins peut-être qu'il ne veuille que Dieu, pourvoyant à l'imagination humaine, ait disposé toutes choses de façon qu'il puisse les imaginer le plus facilement. Et probablement, il ne se laisserait pas arrêter par cette objection qu'il se trouve une infinité de choses qui passent de beaucoup notre imagination, et un grand nombre qui la confondent à cause de sa faiblesse. Mais assez là-dessus. Pour les autres notions aussi, elles ne sont rien, si ce n'est des modes d'imaginer, par lesquels l'imagination est diversement affectée, et cependant, les ignorants les considèrent comme les attributs principaux des choses, parce que, comme nous l'avons dit déjà, ils croient que toutes choses ont été faites en vue d'eux-mêmes, et disent que la nature d'une chose est bonne ou mauvaise, saine ou pourrie et corrompue, suivant qu'ils sont affectés par elle. Si par exemple, le mouvement que reçoivent les nerfs des objets qui nous sont représentés par les yeux convient à la santé, alors les objets qui en sont cause sont appelés beaux. Et l'on dit laid, ceux qui excitent un mouvement contraire. Ceux qui émeuvent le sens par le nez. On les nomme bien odorants ou fétides, doux ou amers, agréables ou désagréables au goût, ceux qui font impression sur lui par la langue, etc. Ceux qui agissent par le toucher sont durs ou mous, rugueux ou lisses, etc. Et ceux enfin qui ébranlent les oreilles, on dit qu'ils produisent un bruit, un son ou une harmonie. Et au sujet de cette dernière qualité, l'extravagance des hommes a été jusqu'à croire que Dieu aussi se plaît à l'harmonie. Il ne manque pas de philosophes qui se sont persuadés que les mouvements célestes composent une harmonie. Tout cela montre assez que chacun juge des choses selon la disposition de son cerveau, ou plutôt leur a laissé se substituer les manières d'être de son imagination. Il n'y a donc pas à s'étonner, pour le noter en passant, que tant de controverses se soient, comme nous le voyons, élevées entre les hommes et que le scepticisme en soit enfin provenu. Si, en effet, les corps humains conviennent en beaucoup de points, ils diffèrent en un très grand nombre, et par suite, ce qui paraît bon à l'un semble mauvais à l'autre. L'un juge ordonné ce que l'autre trouve confus. Ce qui est, au gré de l'un, est à l'autre désagréable, et ainsi du reste. Je n'y insisterai pas, et, parce que ce n'est pas le moment de traiter avec développement de ces choses, et, parce que tout le monde en a assez fait l'expérience. Tout le monde répète, autant de têtes, autant d'avis. Chacun abonde dans son sens. Il n'y a pas moins de différence entre les cerveaux qu'entre les palais. Et tous ces dictons montrent assez que les hommes jugent des choses selon la disposition de leur cerveau et les imaginent plutôt qu'ils ne les connaissent. S'ils les avaient clairement connues, elles auraient, comme en témoigne la mathématique, la puissance, sinon d'attirer, du moins de convaincre tout le monde. Nous voyons ainsi que toutes les notions par lesquelles le vulgaire a coutume d'expliquer la nature sont seulement des modes d'imaginer et ne renseignent sur la nature d'aucune chose, mais seulement sur la façon dont est constituée l'imagination. Et, comme elles ont des noms qui semblent s'appliquer à des êtres existants en dehors de l'imagination, je les appelle êtres non de raison mais d'imagination. Et ainsi, tous les arguments qui sont tirés contre nous de notions semblables se peuvent facilement réfuter. Beaucoup, en effet, ont coutume d'argumenter ainsi. Si toutes choses ont suivi de la nécessité de la nature d'un Dieu tout parfait, d'où viennent donc tant d'imperfections existant dans la nature? C'est-à-dire, d'où vient que les choses se corrompent jusqu'à la fétidité, qu'elles soient laides à donner la nausée, d'où viennent la confusion, le mal, le péché, etc. Il est, je viens de le dire, facile de répondre, car la perfection des choses doit s'estimer seulement par leur nature et leur puissance, et elles ne sont donc pas plus ou moins parfaites parce qu'elles plaisent au sens de l'homme ou les offensent, conviennent à la nature humaine ou lui répugnent. Quant à ceux qui demandent pourquoi Dieu n'a pas créé tous les hommes de façon que la seule raison les conduisit et les gouvernât, je ne réponds rien, sinon que cela vient de ce que la matière ne lui a pas fait défaut pour créer toute chose, savoir depuis le plus haut jusqu'au plus bas degré de perfection, ou, pour parler plus proprement, de ce que les lois de la nature se sont trouvées assez amples pour suffire à la production de tout ce qui pouvait être conçu par un entendement infini, comme je l'ai démontré, proposition 16. Tels sont les préjugés que j'ai voulu signaler ici. S'il en reste encore d'autres de même farine, chacun pourra s'en guérir avec un peu de réflexion. Fin de la première partie.